Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint. Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette émission qui, une fois de plus, nous fait traverser les frontières. Géographiques tout d'abord. Grâce au repli de la pandémie, à nouveau, l'on peut circuler d'un pays à l'autre et venir d'Espagne, comme notre invité aujourd'hui. Les frontières philosophiques, en se posant la question de la séparation ou pas entre le bien et le mal, entre la justice et la vengeance. Historique, en constatant aujourd'hui à quel point les traces du passé, d'une guerre, font écho à la violence contemporaine. Et enfin, traverser les frontières littéraires et dire qu'il n'y a pas de genre, de case prédéfinie pour le roman qui peut être noir et universel à la fois et qui, lorsqu'il est très bon, échappe à toute catégorie, toute nationalité. Bonjour, Javier Sarkas.
Bonjour, comment ça va ?
Bien, merci beaucoup. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est un bonheur de vous recevoir ici à RFI et pour de multiples raisons. D'abord parce que votre œuvre, une dizaine de fictions et essais traduits dans une trentaine de langues, connaît un succès international. Ensuite, parce que votre présence à Paris confirme que l'Europe se déconfine et que l'Espagne et la France permettent à nouveau les allers-retours. Et enfin, que votre nouveau roman, paru en français aux éditions Actes Sud sous le titre Terra Alta, est un bijou qui d'ailleurs a reçu le célèbre prix Planeta en 2019. Sans oublier que, merveille, vous parlez parfaitement notre langue, merci. Donc, traverser les frontières, comme le fait votre roman, et nous y reviendrons, mais parlons peut-être d'abord des lieux, car Terra Alta se déroule dans une région de la Catalogne, dont on sait à quel point cette communauté se distingue en Espagne. D'ailleurs, votre personnage principal, quand il arrive là-bas, on le surnomme l'Espagnolard. Et vous, Javier Sarkas, qui n'êtes pas né en Catalogne, mais qui y vivez, est-ce que vous voyez, vous, une frontière entre la région et le pays ?
Non, pas du tout. Mais le fait, c'est que c'est un lieu très spécial, la Terra Alta. C'est un lieu très inconnu, pas seulement en France, mais même en Espagne. Il est seulement connu parce que là s'est déroulée la bataille plus terrible, pas seulement de l'histoire de l'Espagne, de la guerre civile, mais de l'histoire de l'Espagne. C'est à la fin de la guerre civile et ça a été atroce. Et ça a marqué profondément cette petite région. Et non, c'est un lieu complètement spécial, c'est silencieux, c'est plein de rochers, c'est un peu pauvre par rapport à le reste de la Catalogne. Et dans ces lieux, un homme qui est un homme de cité, qui s'appelle Melchor Marín, qui c'est le protagoniste, trouve d'une façon complètement inattendue, pour lui et pour tous, une patrie. Dans le sens, dans le vieux sens de la parole, le sens noble de la parole, pas le sens politique moderne, mais un sens sentimental, personnel. Non, il trouve un lieu, son lieu au monde, la Terra Alta.
Une terre, en effet, comme vous le disiez, qui est présentée, en tout cas dans votre roman, comme inhospitalière, pauvre, de passage, une terre de perdants que personne n'aime. Vous la connaissez, Javier Sarkas, cette région ?
Ah, bien sûr, oui. Ça a été une grande découverte pour moi. Je suis de le nord de la Catalogne, plus riche et plus l'Empordane, près de la frontière française. J'ai une maison près de la frontière française. Et bon, aujourd'hui, il n'y a pas de frontière, heureusement. Mais cette Catalogne, c'est la Catalogne du Sud. Et quand je l'ai découvert dans mon dernier roman, qui s'appelait « Le monarque des ombres », comme tous mes romans traduits en français. Et pour moi, ça a été un éblouissement complet. Melchior, c'est différent. Melchior, c'est, dans son cas, c'est pas un éblouissement. Il va là, par hasard, et il se trouve là, complètement déplacé, comme un extraterrestre, en fait, parce qu'il est né à Barcelone. Il est d'une Barcelone, j'insiste, très dure et très violente. Et là, il est un peu comme un extraterrestre. Non, pour moi, ça a été un éblouissement total. Dire, qu'est-ce que c'est ? Je ne savais pas que cette Catalogne existait. En fait, c'était un paysage de western. Et ce roman a quelque chose de western. Non, c'est l'homme du dehors qui arrive à cet lieu inconnu, un homme échappé, non ? Parce qu'il est en échappé, vraiment, de son passé.
Alors parlons-en de ce personnage, Melchor, je le prononce à la française.
Oui, à la française.
C'est un peu comme le roi mage, Melchior. Oui. Ce jeune homme policier qui est muté à Terra Alta après avoir tué plusieurs terroristes lors de l'attaque à Barcelone en 2017, un attentat à la fourgonnette qui a fait de nombreux morts et blessés, on s'en souvient hélas. Un choc, une violence qui nous a tous frappés évidemment. Est-ce que vous saviez, Javier Cercas, en commençant ce roman, que vous alliez revenir d'une certaine façon sur cet épisode traumatisant où c'est venu malgré vous presque sous votre plume?
Oui, la deuxième hypothèse est la correcte, c'est-à-dire non, en commencement j'avais seulement ce personnage qui s'appelait Melchior vous disiez, et que c'était un homme plein d'obscurité, d'une furie extraordinaire, d'un désir de destruction, de vengeance très obscur. Et c'est un personnage très dur. Sa mère est une prostituée. Il ne connaît pas son père. Il est né dans la Barcelone plus dure, le quartier plus dur de Barcelone. Il est un adolescent, un enfant violent, complètement sauvage, en fait. Quand Jour découvre la littérature, en particulier découvre un livre, un vieux livre, qui s'appelle Les Misérables, et sa vie change complètement. C'est une transformation totale. Il se découvre lui-même, il découvre sa vocation, tout. Et non, au commencement, je ne savais pas. Même je ne savais pas que Melchior serait un flic. Je ne voulais pas, on m'a dit, est-ce que vous avez écrit un polar parce que vous voulez faire quelque chose? Non, je ne voulais pas écrire un polar. En même temps, je dis que tous mes romans sont des polars. Borges, mon maître Jorge Luis Borges, disait tous les romans sont des polars. Je suis d'accord avec lui. Dans mon cas, c'est très évident parce que tous mes livres... Tous les livres que j'aime, il y a un énigme et quelqu'un qui veut déchiffrer cette énigme. Ça, c'est l'essence du polar. Mais non, je ne savais pas que Melchior était un flic, était serré en police. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il était inévitable que lui serait en police. Peut-être parce qu'au centre du livre, comme vous avez dit très bien, il y a la question de la justice et de la vengeance. Et à un moment donné, j'ai décidé que cette police anonyme qui avait tué 4 terroristes djihadistes près de Barcelone et que nous ne savons pas qui est ce qui est, parce que la police a protégé son identité, évidemment. Si on sait qui est cette police, il sera une cible immédiate du terrorisme. Et le fait qu'on ne savait pas qui est cette police était idéal pour moi. J'ai décidé, Melchior, c'est lui.
Et c'est aussi ce qui le définit d'emblée, parce qu'on voit que c'est un homme capable de tuer.
Oui.
Et en même temps, de protéger.
Oui.
Ce qui lui donne une complexité qui, en effet, est tout à fait à l'image de son parcours, puisque c'est en prison qu'il va trouver une forme de rédemption. On va lui conseiller de lire un livre. Je fais juste une petite parenthèse, Javier Cercas. Il y a une scène très drôle où un écrivain célèbre
oui.
vient voir les détenus, parler littérature avec eux et faire un peu son numéro. Ce n'est pas vous, évidemment. Vous n'avez pas cette vanité-là. Mais néanmoins, est-ce que ça vous intéresse, vous, d'aller voir les prisonniers
ah oui.
et de parler comme écrivain à ces personnes qui sont de l'autre côté des murs?
Ah oui, oui, je le fais beaucoup, oui. Oui, pour des raisons de pratique, pour des livres que j'écris, et parce qu'on me l'a demandé, je le faisais, et ça a été toujours très intéressant, toujours très intéressant.
Qu'est-ce qui se passe pendant ces échanges?
Il y a un personnage dans ces romans, dans Terra Alta, qui dit une vérité que je pense que c'est une vérité absolue. Il s'appelle Le Français, c'est l'homme qui introduit Melchior à la littérature, et c'est un personnage extraordinaire pour moi. Et il dit, la moitié d'un roman l'écrit le romancier, l'autre moitié l'écrit le lecteur. Et je suis complètement d'accord avec lui. Et un roman, c'est une partition, et c'est le lecteur qui interprète cette partition, et chaque lecteur interprète cette partition à sa manière. Et ça fait partie de la magie de la littérature. Alors, c'est-à-dire, c'est le vrai protagoniste de la littérature, c'est pas l'écrivain, c'est le lecteur. Ça, c'est comme ça. Ce sont les lecteurs qui finissent le livre. Et là, dans une prison, tu trouves des lecteurs différents, qui lisent les livres d'une forme différente. Et ça, pour moi, c'est très enrichissant. C'est comme ça. Et ce que le français dit, on trouve une démonstration, une preuve absolue dans ce livre. C'est-à-dire, vous avez dit que Melchior trouve une forme de rédemption dans la littérature. C'est vrai. Melchior, un jour, grâce à les Français, à ces personnages qu'on appelle les Français, parce qu'il est Français, il lit le misérable. Et alors, c'est passé une sorte de magie. « De te fabula narratur », dit Horace, le poète latin. C'est-à-dire, l'histoire parle de toi. Et c'est exactement ça que Melchior sent à ce moment-là. Que ces vieux livres ne racontent pas une histoire, une vieille histoire, mais son histoire. Il se découvre à lui-même quand il lit ce livre. Il découvre sa vocation, sa propre existence. C'est comme un miroir pour lui. Et évidemment, tout change. Il découvre sa vocation de police et il lit ce livre d'une façon que personne n'a lu avant lui, je crois. Il voit dans le, dans le mauvais. Tout le monde se souvient que dans Le Misérable, il y a un type qui, théoriquement, c'est le bon, que c'est Jean Valjean, qui a été en prison, comme Melchior, il veut oublier son passé. Et il y a un mauvais, que c'est Javert, l'homme qui va contre lui, non, le police, un homme terrible, un homme froid, un homme dur, mauvais. Bon, Melchior lit les livres et pense que le vrai bon, c'est en fait Javert. Parce qu'il a une morale très spéciale, une vision de la vie très spéciale. Melchior, il pense que les gens qui sont apparemment bons sont en fait les mauvais, et que les gens qui sont apparemment mauvais sont en fait les bons. Et alors, Javert devient son vrai héros. Pour lui, c'est l'héros caché de Misérable, parce que Melchior pense que la loi, c'est la seule forme que le misérable, les pauvres et les gens qui n'ont pas pouvoir, ont de se défendre contre les riches et les gens de pouvoir. Et Javert, c'est le héros de cette vision du monde. Et c'est pour ça que Melchior devient un police. Pour ça et pour d'autres raisons personnelles, mais ça, c'est essentiel.
Oui, c'est tout à fait frappant suite à cette lecture des Misérables de Victor Hugo. Melchior décide de reprendre ses études et de devenir policier comme Javert. Ce qui nous étonne, puisque comme vous le disiez, c'est plutôt Jean Valjean, le personnage emblématique. Mais lui, il s'identifie à Javert. Alors pour mieux comprendre ce personnage, je vous propose d'écouter un extrait des Misérables, mis en onde par nos camarades de France Culture, avec ici une lecture où il est question de Javert.
Javert, sans bouger, devint épouvantable. La certitude de tenir enfin Jean Valjean fit apparaître sur sa physionomie tout ce qu'il avait dans son âme. La difformité du triomphe s'épanouit sur ce front étroit. Mais Javert, effroyable, n'avait rien d'ignoble. L'impitoyable joie honnête d'un fanatique conserve on ne sait quel rayonnement vénérable. Sans qu'il s'en doutât, Javert était à plaindre, comme tout ignorant qui triomphe. Rien n'était poignant comme cette figure, où se montrait tout le mauvais du bon.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain espagnol Javier Cercas, avec qui nous feuilletons son nouveau roman traduit en français sous le titre Terra Alta aux éditions Actes Sud, le premier volume de ce qui deviendra une trilogie. Et ici, donc, vous alternez, Javier Cercas, deux histoires, à la fois celle de Melchior, On l'a entendu, votre personnage principal, cet ancien détenu devenu policier, héros national, qui pour échapper à trop de visibilité a été envoyé en Terra Alta, où à la fois il trouve l'amour en la personne d'Olga, bibliothécaire, avec qui il aura une petite fille nommée Cosette, oui. Évidemment en hommage à Victor Hugo. Et puis, il trouve également la violence, avec un sanglant fait divers sur lequel il doit, lui et ses collègues, enquêter. Un très vieux couple torturé, assassiné à leur domicile, où a été tuée aussi leur dame de compagnie. Trois morts, ce qui d'emblée place le lecteur et la lectrice dans un univers de polar, de roman noir. Mais on a l'impression, Javier Cercas, que ce n'était pas vraiment votre choix et que peut-être vous avez voulu au contraire sortir le polar de sa case avec ce livre. Parce que même si les questions de meurtre, de prison, d'enquête, c'est d'abord un roman, au même titre d'ailleurs que Les Misérables ou L'Étranger de Camus que vous citez, il y a aussi des morts, des assassinats, des procès, de la prison. Mais ici, ce qui vous intéresse, c'est de parler de plus largement de la vie, n'est-ce pas?
Absolument. Je sais qu'il y a des gens, encore pas seulement en France, mais un peu partout, qui pensent que le polar, c'est un genre mineur de la littérature. Qui pensent ça ne sait pas qu'est-ce que c'est la littérature. Parce qu'en littérature, il n'y a pas genre mineur ou majeur. Il y a forme majeure ou mineure, meilleure ou pire. D'utiliser les genres, c'est-à-dire, je ne sais pas, la comédie à Shakespeare et Molière et d'autres qui sont très bons. Mais en même temps, il y a énormément de gens qui sont très mauvais. Et le polar à Edgar Allan Poe, qui l'a inventé, Borges, Simenon en français, ou au Chacha en italien, etc. Mais en même temps, il y a des écrivains qui font des polars qui sont très mauvais. En somme, il y a seulement deux types de romans, le bon roman et le mauvais roman. Et tout le reste, c'est bavardage. Je ne sais pas si ces romans, c'est un polar. Si on veut les lire comme un polar, très bien. Mais je m'en fous. Ce que je voulais avec ces romans, c'est exactement la même chose que je voulais avec mes romans précédents. Et c'est pour ça que j'aime les polars. Parce que c'est
donc
ça.
Vous en lisez aussi, Javier Cercas?
Je ne suis pas un lecteur de polars. Je lis des écrivains qui écrivent des polars. C'est différent. C'est-à-dire Don Winslow, par exemple, l'écrivain nord-américain. Je crois que c'est tout court, un des grands écrivains d'aujourd'hui. Don Winslow, par exemple. Mais je ne suis un lecteur de polar. Je ne peux pas comprendre comment on peut être un lecteur de polar. Comme je ne peux pas comprendre comment on peut être un lecteur de comédie. Non, je lis des romans. Je lis tout. Non, et ce qui est bon, c'est bon. Et ce qui est mauvais, c'est mauvais. Tout simplement. Non, mais cet préjugé snob contre la littérature populaire, c'est terrible. Et ce que j'aime le plus du polar, c'est son humilité. Ça, c'est très joli. Contre cette vision ridiculement de littérateur, ridiculement prétentieuse, l'humilité du polar, c'est magnifique. Parce que la littérature, pour commencer, c'est un plaisir. C'est le plus important. C'est comme le sexe, non? Mais oui, c'est vrai. Et cette humilité du polar que veut seulement, pour commencer, entretenir, comme voulait Cervantes, comme voulait Shakespeare. J'adore ça. Je trouve que ça, c'est formidable.
Donc, de Don Winslow, qui, entre parenthèses, a écrit un livre qui s'intitule La Frontière, de mémoire.
Oui, excellent.
Jusqu'à Victor Hugo,
oui.
Les Misérables, c'est aussi un de vos livres de chevet, donc Javier Cercas.
Les Misérables?
Oui.
Non. C'est un livre de chevet pour Melchior.
Ah, ça, c'est intéressant, parce que vous en parlez si bien qu'on a l'impression que vous prêtez vos propres goûts littéraires,
oui,
à votre personnage.
Non.
En l'occurrence, vous avez précisément choisi Les Misérables comme emblématique, quoi, de la question de la justice, de la vengeance. Et la justice, attention, qui n'est pas la même si elle est publique ou si elle est intime.
Oui.
C'est pour ça que vous avez choisi Les Misérables.
La vérité, c'est que je n'ai pas choisi Les Misérables. Ça a été Melchior qui a choisi Les Misérables. C'est la vérité. C'est-à-dire, à un moment donné, quand j'ai commencé à connaître Melchior, je me demandais quel livre pourrait changer la vie d'un sauvage absolu, violent, avec une énorme quantité d'obscurité. Et immédiatement, j'ai pensé aux Misérables. Pour Melchior, c'est un livre, c'est plus qu'un livre, c'est essentiel pour lui.
C'est une Bible.
C'est la Bible pour lui. Il interprète sa vie. Il connaît sa vie à travers ses livres. C'est la Bible, exactement ça. L'Évangile, tout. Mais non, pour moi, c'était pas ça. C'est-à-dire, pour moi, j'ai lu ce livre quand j'étais 18 ans et j'ai, mon opinion sur ce livre, c'est plus proche à celle d'Olga et celle de Flaubert. Non? C'est un livre, Le Misérable, que théoriquement, je ne devrais pas aimer. C'est-à-dire, sentimental, excessive, barbare, mélodramatique, tout ça. Mais on ne peut pas arrêter de le lire, dit Olga. C'est plus ou moins ce que je pense. C'est-à-dire, il y a des romans de cette époque, de cette même époque, qui pour moi sont beaucoup plus ou des écrivains comme Flaubert, par exemple. Flaubert, c'est d'une modernité absolue. Mais pas Le Misérable. C'est un livre vraiment monstrueux. C'est vrai que quand j'ai décidé, quand Melchior m'a dit, c'est mon livre, alors, je l'ai relu trois fois au moins pour le connaître par cœur, parce que il interprète sa vie avec Les Misérables.
Alors. Donc, vos personnages vous parlent à l'oreille, Javier Cercas.
Un personnage comme Melchior a une forte personnalité. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'il ne finit pas. C'est-à-dire, il a une vie, il est très vivant, il est très autonome. Bien sûr, je pourrais faire avec lui ce que je voudrais, parce que je suis son créateur. Mais il a une force intérieure énorme. Je l'aime beaucoup. Je suis tombé complètement amoureux de ce personnage, je dois le dire. Plein de contradictions, plein de douleurs, plein de violences, plein de choses terribles. Mais en même temps, il a un cœur pur et il voit Dieu dans ses sens, dans les sens religieux. Et je l'aime énormément, avec toutes ces contradictions. Quelqu'un a dit, il est un bon, mauvais policier. Et je suis d'accord avec qui a dit ça. Comme Don Quichotte était en même temps fou et complètement lucide, ridicule et héroïque. Comme Melchior, il est essentiellement contradictoire. Les êtres humains sont comme ça, non?
Et revenons sur ce que vous disiez à l'instant, Javier Cercas, que finalement tous vos romans étaient des polars, que vous êtes tombé en amour de Melchior qui est policier. Est-ce que vous auriez aimé être policier?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non.
Mais en fait, vous l'êtes en écrivant.
Oui,
en vous intéressant au passé, en vous intéressant aux souffrances, en creusant là où ça fait mal et en essayant de comprendre.
Oui.
En écrivant, vous aussi, vous enquêtez.
Oui, absolument. Il y a un écrivain argentin, Ricardo Piglia, qui a dit une chose que c'est très, très exact. Il dit, le policier, c'est le dernier philosophe. Il y a un lien, évidemment, entre les policiers et les philosophes. Tous les deux vont à la recherche de la vérité. Et les romanciers vont à la recherche de la vérité. Dans mes romans précédents, il y avait un romancier qui s'appelait Javier Cercas qui allait à la recherche d'une vérité. Et c'est ça le métier du romancier. Le même que le métier du policier. Non? La différence, comme le métier de journaliste. Non? La différence, c'est que la vérité du romancier, c'est une vérité littéraire. C'est-à-dire, la vérité du journaliste ou du policier, c'est la vérité concrète, précise, historique, journalistique. Non? Qu'est-ce qui s'est passé dans un lieu concret, à des personnes concrètes, etc. Mais la vérité du romancier, c'est une vérité contraire. C'est une vérité abstraite, morale, universelle. Qu'est-ce qui se passait tout le monde, dans tous les pays, dans toutes les circonstances. Mais c'est toujours la recherche de la vérité.
Alors justement, ça me permet de parler avec vous d'une phrase que j'ai soulignée dans votre roman où vous écrivez, ouvrez les guillemets, la réalité est pleine d'invraisemblances. Elle ne ressemble pas au roman. Fermez les guillemets. Que vous permet alors la littérature de redonner de la vraisemblance à la réalité, Javier Cercas?
La littérature permet beaucoup de choses, mais ce qui permet surtout, c'est trouver un sens ou une illusion de sens à la réalité. Je souligne une illusion de sens parce que on ne sait jamais. C'est-à-dire, la vérité littéraire, c'est-à-dire la vérité essentielle des êtres humains, c'est déjà une vérité fragile, une vérité qui échappe. Non? C'est pourquoi, pour moi, écrire un roman, c'est formuler une question complexe de la façon plus complexe possible et ne pas la répondre. Ça, c'est écrire un roman. Ou ne pas la répondre, au moins, d'une façon claire, univoque, taxative. La réponse du roman, c'est toujours une réponse ambiguë, contradictoire, polyédrique. Non? À la fin, essentiellement ironique. C'est-à-dire, la réponse, c'est la recherche même d'une réponse, la question même, le livre même. Dans ces romans, La question essentielle serait, est-ce que la vengeance, c'est légitime quand la justice ne nous rend pas justice? Ça serait la question essentielle. Et évidemment, dans notre vie, la réponse serait très claire, dans la vie de l'expérience. Non, la vengeance ne peut pas être légitime, jamais. Non, comme dit un vieux policier dans les romans, qui ne respecte pas la forme de la justice, ne respecte pas la justice. Ok, mais ça, c'est dans la vie. Dans la littérature, c'est-à-dire dans la fiction, tout est différent. Complètement différent. J'ai dit, la littérature, c'est une forme de, c'est un plaisir, mais aussi, c'est une forme de connaissance. Et quelle est la forme de la connaissance de la littérature? Pour commencer, de nous poser en question, plus comprendre des personnes, des attitudes, des idéologies qui nous n'aimons pas. La littérature permet de faire sortir ce que Georges Bataille appelait la peur maudite. Non, les êtres humains ne sont pas des anges. Je ne suis pas un ange. Mais vous n'êtes pas un ange.
Presque.
Non, presque, mais vous n'êtes pas comme. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans Melchior, la furie, la violence, le désir de vengeance, tout ça c'est dans nous. Bataille disait, il y a un animal sauvage dans nous. C'est fermé dans une prison. Mais si nous ouvrons cette prison, la porte de cette prison, l'animal sauvage, la bête, et alors la vie sociale, c'est impossible. Je vous détruirai, je m'étruirai moi-même. La littérature, c'est le lieu de cette part maudite, non, du mal, dirait Bataille. Dans la littérature, on peut faire des choses que la vie réelle, on ne peut pas faire. Melchior fait des choses qu'on ne peut pas faire. Et dans la littérature, on peut célébrer les choses mauvaises que Melchior fait. Dans la littérature, on peut empathiser avec, je ne sais pas, Richard III de Shakespeare, qui c'est un vrai monstre horrible, avec un assassin comme Raskolnikov de Dostoïevski, avec Michael Corleone de Le Parrain, non? Oui, nous sommes avec lui à la fin de film, quand on tue sa petite fille dans ses bras. Et c'est sa faute. Et nous sommes avec lui. Nous pleurons avec lui, non? Et lui, cet homme, c'est un monstre qui a tué même son frère. Alors ça, c'est que fait la littérature. Et en faisant ça, la littérature devient une catharsis, comme disait Aristote, une purification, non? Et c'est pour ça, pour cette raison, que la littérature, contrairement à ce que je pensais quand j'étais jeune, c'est utile. Mais si elle ne veut pas être utile, si elle veut être utile, elle devient propagande ou pédagogie et arrête d'être utile et arrête d'être littérature, vraie littérature.
Et finalement, ce livre, c'est un extraordinaire cri d'amour pour la littérature.
C'est vrai, complètement, c'est vrai. Oui, oui. La littérature, c'est une forme de vivre plus, d'une façon plus intense, complexe et plus riche. C'est ça, la littérature. Qui lit un livre n'est pas en dehors du monde. Il vit plus que ce qu'il ne lit pas.
Merci beaucoup, Javier Cercas, de nous faire vivre plus et mieux et de nous mettre au cœur du monde, justement, avec vos livres. Et celui-ci qui vient de paraître aux éditions Actes Sud sous le titre Terra Alta, dans une traduction de l'espagnol par Alexander Grujicic et Karine Louédon. Merci encore et on attend avec une impatience littéraire la suite des aventures de Melchior, puisque Terra Alta donnera naissance à deux autres volumes.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. En sol majeur.